chers auditeurs, on a une nouvelle partie de Club JDR. Ça fait longtemps parce que c'est de ma faute, j'ai pris une grosse pause, entre autres pour faire de l'editing parce que j'avais beaucoup de retard. Mais aujourd'hui, il y a Olivier qui est là. Salut Olivier.
Et bonjour à tous.
Benoît qui est là.
Salut, salut.
Et David.
Bonjour Jean-Michel.
Voilà, et alors on continue donc la campagne Les Infinités, Curse Infinity, les monstres, les univers parallèles d'horreur. Et aujourd'hui, je vous propose de vous retourner, en fait. Vous êtes retourné dans le monde Delta Green 1, où on a déjà fait une partie. Ça, on est en 1947, juste après la Seconde Guerre mondiale. Et vous avez voyagé à New York et vous avez votre contact là-bas. Vous l'aviez sauvé dans la précédente partie qu'on avait fait dans ce monde-là. Il s'appelle Jacob Goodman. C'est un ami de longue date de Saki qui n'est pas là ce soir. Si vous vous souvenez, il avait été capturé dans les égouts de New York la dernière fois qu'on a joué dans ce monde-là. Mais vous l'aviez récupéré englué dans de la substance très bizarre dans les égouts. Oui, c'est votre contact sur place, donc c'est lui qui surveille un peu cette réalité. Et donc dans le briefing qu'il vous a donné, donc on sait que c'est une réalité lovecraftienne, avec les réalités lovecraftiennes, généralement elles ont très peu de mana, hein. Elles ont du mana mais léger, hein. Mana faible, ce qui permet à des sorciers d'exister, mais c'est très 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 dur de lancer des sorts, quoi. Il faut faire des rituels assez longs et fastidieux, comparé à des mondes de haute fantasy à la Donjons & Dragons. Et donc, en fait, dans le briefing que vous avez reçu, Jacob vous a dit que donc il utilise des appareils technologiques d'infinité pour détecter des variations dans le mana, hein, entre autres. Il circule en fait dans le pays, dans les États-Unis, et il fait voler des drones, évidemment.
J'ai senti une variation dans la force.
Exact, ouais. Donc il fait voler des drones. Bon, alors les gens prennent ça pour des soucoupes volantes, c'est pas grave. Et alors ça lui permet de détecter si jamais, il essaye de trouver des sources de mana. Et à cette très grande surprise, il a découvert un geyser de mana extrêmement puissant en Arkansas, dans une ville qui s'appelle Eureka Springs. C'est une ville thermale. Qui se trouve dans les monts Ozark, une chaîne de montagnes qui ressemble un peu à la Suisse comme ça. Donc oui, il était dans le coin. Enfin voilà, ça fait partie de son job d'un peu surveiller ce qui se passe. Donc il voyageait aux États-Unis et puis son compteur, c'est pas un compteur GGR, mais l'équivalent de ça, détecté, mais vraiment à proximité de cette ville, une explosion de mana beaucoup trop puissante par rapport à la ligne de base de Delta Green 1. Et du coup, il vous a demandé évidemment d'aller un peu voir ce qui se passait là-bas.
Il a détecté à un endroit très précis ou la détection est relativement vague géographiquement parlant, je parle.
Alors, ce qu'il vous a expliqué, c'est qu'évidemment, il ne s'est pas aventuré plus avant, entre autres parce que il a découvert que la ville de Eureka Spring était interdite au public. Donc évidemment, il a comparé avec Eureka Spring dans les autres réalités. Dans votre réalité à vous, Eureka Spring est une ville thermale absolument florissante. Donc c'est une ville où les touristes américains vont pour dans des hôtels resorts pour se baigner dans des eaux. Et il n'y a absolument aucune mention du fait que la ville serait... Donc à l'heure actuelle, d'après les enquêtes qu'il a fait en bibliothèque, Jacob a découvert que en fait, il y avait eu une énorme tempête de neige à Eureka Spring en 1934 qui avait tué beaucoup d'habitants. Et suite à ça, la plupart des habitants ont abandonné la ville et la ville est devenue une ville fantôme à l'heure actuelle. Ce qui n'est absolument pas le cas dans les autres réalités que vous connaissez, évidemment.
Donc, c'est une ville thermale, donc avec des eaux qui viennent des profondeurs.
Je pensais à la même chose. Ceci dit, on sait même pas si elle a été thermale dans cette réalité, si c'est dans notre réalité qu'elle est thermale.
Ah si, il a pu être documenté, qu'il a pu trouver que qu'elle était jusqu'à avant. En fait, la divergence a été en 1934, quoi. Avant ça,
Ok.
il y avait déjà une activité hôtelière avant
Ok.
et des sources thermales, etc. Voilà. Et la ville est aussi célèbre dans votre réalité pour avoir une architecture victorienne assez particulière et des rues assez fort pentues. Enfin voilà, c'est un lieu de villégiature.
C'est mignon.
Donc, si j'ai bien compris, ce fut une ville thermale avec beaucoup de touristes. Et là, blizzard, tempête de neige, ville fantôme interdite au public, c'est ça?
Exact, c'est totalement ça, t'as totalement bien compris, quoi.
Le fait qu'elle soit interdite au public, c'est parce qu'il y a un danger quelconque connu ou c'est juste
Oui,
parce que
ils
comme
l'ont
elle a été
fermée ou... Ouais.
désertée, c'est juste Cthulhu qui a booké la ville thermale pour une période
Il a planté ses
indéterminée.
petits panneaux keep out.
Il a mis ses petites tentacules un peu partout.
Oui, voilà, c'est une bonne question. Est-ce qu'on sait pourquoi elle est interdite?
Donc effectivement, la tempête de neige en 1934 a été absolument dévastatrice et il y a eu beaucoup de morts. Et ça semble étonnant à Jacob, mais qu'une tempête de neige tue autant, enfin pratiquement 85% de la population est morte à ce moment-là. Certaines personnes ont réussi à s'enfuir, mais voilà. Et donc après ça, le gouvernement, en fait, l'armée a interdit l'accès à la ville, mais les informations sont pas très claires. Ça a été classifié. Officiellement, c'est toujours parce qu'il y aurait un microclimat extrêmement dangereux dans la région.
De toute façon, quand le gouvernement américain ferme une zone et l'interdit au public, c'est toujours pour le bien de la population et pas pour cacher
Exactement.
des choses
C'est pour la
bizarres.
sécurité de tout le monde.
Exactement.
Ah oui. Bien. Et il n'y a pas de survivants qu'on pourrait interviewer avant d'y aller?
Non, Jacob a essayé, mais il n'a pas réussi à en trouver, malheureusement. Et de toute façon, quand je vais commencer le scénario, juste par souci de brièveté, vous êtes déjà en route en voiture, donc Jacob vous a donné une voiture et vous êtes actuellement, il est tard le soir et vous arrivez dans une station d'essence, en fait, qui est un peu sur la carte la dernière station d'essence que vous pouvez vous arrêter avant d'arriver à Eureka Spring. La route évidemment sur laquelle vous êtes continue, mais il y a un embranchement, il faut sur la gauche, plus loin, à quelques kilomètres de la station d'essence, avec un pont qui passe la rivière White, la rivière Blanche, et c'est ça qui vous fait rentrer dans la zone interdite. Mais donc oui, c'est un peu votre dernier arrêt avant la civilisation, et vous êtes arrêté évidemment pour faire un plein d'essence, et puis éventuellement acheter un peu des victuailles, je sais pas s'il y en a un qui fume des cigarettes ou
Moi, je pensais m'acheter un petit hot dog ou quelque chose comme ça, hein, pour.
Moi, j'aime bien jouer au jeu de rôle parce que c'est un endroit où tu peux faire tes pleins d'essence, tu peux rêver, tu peux t'évader un peu de la réalité, c'est sympa.
On en profite peut-être pour discuter vite fait avec le pompiste en
Ouais.
mode oh le business doit pas tellement bien marcher ici. J'ai entendu dire que la ville du coin était complètement interdite. C'est un peu bizarre. Vous savez pourquoi?
Oui, oui, évidemment, c'est un endroit vraiment très reculé avec un vendeur assez acariâtre qui a l'air de chiquer du tabac derrière son truc. Il fait, ouais, c'est vrai que il y a pas beaucoup de gens, surtout à cette heure-ci, hein, tard le soir. Vous allez où, vous?
On va peut-être pas lui dire qu'on va là-bas.
On fait du tourisme.
Ouais, on lui cite.
Ouais, la ville touristique la plus proche, ouais.
Ouais,
en continuant tout droit, la ville où on arrive en continuant tout droit.
Ouais, dit non, la ville là, Reka Spring, elle est maudite. Hein. Je comprends bien que le gouvernement les a l'a interdite. Il y a une malédiction dessus. Il faut pas y aller. Il y a parfois des petites jeunes qui y vont. Ils se croient malins comme ça. Et puis ils reviennent jamais, évidemment. Hein.
C'est quoi cette malédiction? J'adore ce genre d'histoire.
Oh, il y aurait un démon qui aurait pris le contrôle de la ville. Un démon qui contrôlerait les éléments. Une sorte de Wendigo. C'est ce qu'on raconte dans la région, en tout cas.
Et mais il y a eu quelque chose en particulier qui s'est passé pour que la ville soit déserte maintenant?
Ouais, c'est cette tempête de neige, là, il y a 10 ans de ça, un peu plus. Ah, c'était horrible. Moi, j'habitais pas là, heureusement, mais avant ça, le climat, il était raisonnable, hein, mais depuis, il neige sans arrêt là-bas.
Et vous connaissez personne qui pourrait nous raconter un peu ce qui s'est passé? Moi, je trouve ça super intéressant parce qu'en fait, vous voyez, je suis écrivain, j'aimerais bien raconter une histoire comme ça pourrait être sympa.
Oui, juste pour vous donner une idée aussi, dans votre réalité, Eureka Spring, le climat est plus ou moins celui de la Belgique, donc avoir des tempêtes de neige quasiment en permanente, c'est vrai que c'est un fameux microclimat. Hein.
J'imagine que c'est pas particulièrement en altitude non plus.
Voilà, c'est dans des montagnes, mais ça devrait pas, c'est pas supposé être aussi neigeux que ça. Il dit, ah non, à tous les gens qui habitaient, les quelques rares qui ont survécu à la tempête de neige, ils ont déménagé super loin, vous en trouverez plus dans la région, ils ont eu trop peur.
Oui, je me doute. Dommage.
Est-ce que dans sa station-service, il vend des trucs, il y a des objets qui nous paraissent saugrenus
Un petit Cthulhu miniature.
Non, pas ça, non, pas ça, mais tu vois, s'il a beaucoup de militaires qui passent par là, il va peut-être vendre des trucs spéciaux pour eux, des trucs spéciaux pour eux, tu vois, ou alors du matériel un peu hors du commun ou pas du tout, quoi, ou c'est classique.
Non, c'est très classique. Par contre, quand tu dis ça, tu vois une Jeep qui arrive et qui se gare pour prendre de l'essence aussi. Et à l'intérieur de la Jeep, il y a quatre mecs patibulaires. Non, il y en a un qui sort pour prendre de l'essence. Rien qu'à la façon dont ils bougent, t'as l'impression que c'est. Ils sont absolument. Enfin, je veux dire, le véhicule est totalement banalisé, hein, mais il donne un look de paramilitaire, quoi. La façon dont ils se déplacent, etc. Il y en a un qui sort pour s'allumer une cigarette. Ils regardent aux alentours. Puis il y en a un qui rentre quand même dans la station d'essence à l'intérieur pour aller s'acheter un bac de bière.
Est-ce qu'on se prend un sandwich histoire de demander une fois avoir mangé notre sandwich au gars de la station qui sont ces types?
Oui, on peut s'acheter un sandwich. Sinon, moi, je pensais interpeller le militaire qui vient s'acheter le pack de bière en lui disant, donc, vous pourrez dire à votre ami là qui fume juste à côté de la pompe à essence que c'est pas forcément une bonne idée. S'il pouvait s'éloigner un peu, je lui en serais gré. Merci beaucoup. Histoire de le taquiner un peu, tu vois,
Qu'est-ce que tu
comment il
racontes?
réagit. Il
Fumer, c'est
reste
bon pour la
soft.
santé dans ces années-là.
Ouais. Il reste soft ou s'ils sont
C'est
vraiment
mon
agressifs
médecin
ou
qui
pas.
me l'a prescrit, il va te dire.
Ceci dit, je ne sais pas si le fait de mettre le feu à une grosse quantité d'essence soit prescrit par le médecin, même à l'époque.
Ouais, c'est un jeu d'interaction sociale. Qu'est-ce que ça serait? Attendez, faut que j'ouvre ma clé. Tac.
Alors, j'ai fast talk, mais bon, diplomatie.
Ouais, ce serait
Ouais.
diplomatie. Je pense que tu l'as dit sur un ton diplomatique.
Ouais, un petit peu agressif quand même. Donc, c'est pour ça que j'ai hésité entre intimidation et diplomatie.
Connard, ta clope là!
Non, non, mais c'est un peu pour voir s'ils sont eux agressifs de base ou finalement s'ils font juste passer comme n'importe qui, quoi.
Lance 3D6 d'abord
Clairement.
pour voir comment ils réagissent à ton personnage avec tes
Et je
éventuels
fais
bonheurs.
5 et 4, 9 et 3, 12, donc c'est un loupé.
Oui, ton jet de diplomatie, mais lance-moi quand même les 3D6 si tu me dis juste le score brut pour savoir comment ils réagissent à ta présence.
Donc je relance mon 12.
Oui, c'est pas relancé, ça c'est juste ton score brut de comment ils réagissent à ta présence. Ouais.
Ah bah 3 fois 1, ça fait 3.
T'as fait 3 en tout?
Ouais.
Oh, t'as
Un
fait
fait
3, t'as
plus
fait
1, ça fait
1, c'est ça, t'as
voilà, c'est
fait.
ça.
Waouh! C'est le pire score de ce que tu puisses faire, hein, parce que le mieux c'est 18. Ok.
Voilà, et là, c'est.
Tu voulais
Ils vont nous
tester
embarquer, ça va du tout.
leur patience à ton égard, c'est ça? Et en plus, tu auras ton jet de diplomatie, quoi. Ok.
Je mange mon sandwich tranquillement en m'éloignant de la scène.
faut pas faire moins que le score en diplomatie.
Là, non. Donc oui, le score global quand vous lancez 3d6 pour un jet de réaction, c'est entre 0, enfin entre 3 et 18, et ça c'est juste plus c'est haut, plus ils réagissent positivement à votre présence.
Ah oui, c'est la réaction par rapport à...
Ouais, ouais. Et avec un 3, forcément, il te pousse sur le thorax, il te regarde et il fait « Tu me cherches ou quoi ?» Le petit intello, là.
Non, non, alors déjà, petit intello, je pense pas que j'en ai le physique, mais je dis simplement que c'est dangereux ce que votre copain il fait, quoi. Et puis, je regarde son pack de bière, je dis « Puis l'alcool au volant, c'est pas non plus une super idée. » Enfin bon, moi je dis ça, c'est votre vie, les gars.
Hein. Ouais, c'est vrai que t'as une force de 17 et... hit point 13 et 13, ouais. Ouais, c'est vrai que t'es moins baraqué qu'eux, mais t'es quand même assez athlétique. Il jette de l'argent au vendeur et il prend son bac et il s'en va.
Là, je dis au vendeur, pas très poli vos clients, hein.
Ouais, non, sa première, enfin, il dit, je les connais pas, ces mecs-là, j'espère qu'ils viennent pas chercher des ennuis.
Vous les aviez jamais vus?
Non, jamais, non.
Oh, bon. Du coup, moi, je choisis mon sandwich, pareil, et puis...
Leur véhicule, c'est une Jeep classique ou elle est équipée pour la neige ou quelque chose comme ça?
Oui, elle est équipée pour la neige, ouais.
Bon, je pense qu'on va juste regarder par où ils partent et puis... et puis on partira un peu. Ouais, vas-y.
On est équipé pour la neige? Genre, on a des chaînes, ce genre de choses.
Une doudoune, un bonnet.
Non, c'est peut-être le moment d'acheter des trucs dans la station.
C'est une bonne idée.
Oui, vous êtes plus... Oui, on va dire que vous êtes équipé, parce que vous saviez que vous alliez aller dans une région enneigée, quoi. Vous n'êtes pas parti. Vous êtes des pros, quand même.
Il y en a des chaînes aux roues, enfin, possibilité de mettre des chaînes aux roues et tout ça, d'accord.
Exact, oui.
Ok, tant mieux.
Ouais, c'est le genre de Jeep qu'ils ont, hein. C'est pas une Jeep militaire, mais c'est quand même une Jeep.
Ok.
Ils partent effectivement dans la direction où vous comptez vous-même aller.
Ah oui.
Pour rentrer dans cette zone interdite, est-ce qu'on le fait de jour ou de nuit? C'est ça la question. Sachant que le...
Il y a qu'un passage pour aller à la ville, c'est ça?
Ouais, c'est ça la question. Vas-y.
Il n'y a pas d'autre chemin que le pont pour aller dans cette fameuse ville?
Pas si vous voulez, sauf si vous voulez y aller à pied, quoi. Mais
la question c'est, est-ce que quand il fera nuit, avec le temps et la neige, il fera suffisamment jour pour ne rouler sans feu?
Avec la neige, ouf, je pense pas, non.
Parce que rouler avec les feux la nuit, c'est pas du tout stealth, quoi.
Alors, est-ce que la neige et le temps sera suffisamment dense pour cacher la lumière de la voiture?
La question qui me taraude, c'est ce changement de météo, parce que là où on est, là dans la station-service où on est, il neige pas, on est sur un climat normal.
Oui, oui, oui.
Et est-ce qu'on peut apercevoir au loin, à l'horizon, le changement brutal de météo? Est-ce qu'on voit des nuages? Parce que le pont qu'on va traverser, lui, il n'est pas sous la neige. C'est-à-dire qu'on risque... Enfin, c'est pas un pont spécialement dangereux ou...
Sinon, on se fait les militaires, on pique leur déguisement et puis on y va comme ça.
Oui, de toute façon, en arrivant, effectivement... maintenant, il fait déjà un peu trop nuit, vous pouviez voir effectivement des nuages assez... assez menaçant à l'horizon, hein, aucun problème. Vous pouviez le voir, ouais, un changement de temps assez net, ouais, dans la direction où vous alliez. Ouais.
Et le pont n'est pas concerné par cette météo?
Il est juste à la limite, ouais.
Parce que un pont sous la neige, c'est un peu pas terrible, quoi.
Non, mais il est... Non, oui, t'inquiète. Enfin, pour ça, il est... La tempête de neige commence après le pont, ouais.
Le gars a pris de la bière pour eux quatre en termes de quantité. Il a pris un pack ou il a pris 10 packs parce qu'ils sont 40 derrière?
Non, il a pris pour eux quatre, ouais.
D'accord. Ouais, moi je serais pour y aller franco, quoi. Aller jusqu'à la zone concernée.
Ouais, l'autre question c'est est-ce que le pont va être gardé ou pas? Parce que si le pont est gardé, on a peut-être de toute façon intérêt à laisser à un moment donné la voiture et partir à pied. Mais. Mais en tout cas, on peut au moins aller jusqu'au pont à bonne distance d'eux, histoire de voir ce qu'il en est, quoi. Je pense. Non.
On a des jumelles ou quelque chose comme ça ?
Ouais, on va dire que vous avez des jumelles, ouais.
Ça peut nous permettre à distance de vérifier que le pont est gardé ou pas.
Ouais, ça me semble pas mal. On les suit, on leur laisse un peu d'avance.
Ouais, et puis si on voit qu'ils s'arrêtent, on s'arrête. Et puis...
Ouais, je suis d'accord.
Ouais.
Ok.
Bah, allons-y comme ça. Ouais.
Bah, donc vous montez dans votre véhicule et vous les suivez dans la nuit. Vous traversez des forêts. Hein, y a les phares. Vous apercevez parfois au loin les phares de la voiture des autres mecs. Hein, mais ils sont bien à l'avant sur vous. Hein, mais bon, là, comment dire, la route est sinueuse. Donc parfois vous apercevez au loin, dans un tournant, dans un détour du serpent de la route, vous apercevez leur lumière. Et puis vous arrivez en vue du fameux pont. Et en fait, autour de la ville, donc oui, une fois que vous, en fait, vous arrivez à l'intersection entre la route qui continue et puis la route qui va vers le pont. Et là, il y a des panneaux qui disent entrée interdite, passage non autorisé. Et il y a juste une barrière qui est fermée, qui empêche de passer, quoi, mais que vous pouvez aisément ouvrir et fermer. D'ailleurs, vous voyez que, enfin, la voiture de ceux qui vous ont précédé est déjà plus là, mais en tout cas, l'accès au pont n'est pas gardé par des militaires. Il y a juste énormément de signes et une barrière déplaçable qui empêche l'accès à la ville, quoi.
Et leur voiture est donc bien évidemment passée par là. Genre, il y a des traces que la barrière a été ouverte récemment. Il y a des traces de pneus qui vont dans ce sens-là, c'est ça?
Ouais, totalement.
Ok. On y va?
Bah oui, je descends de la voiture, j'ouvre la barrière et puis je fais passer mes collègues et je remonte dans la voiture pour continuer notre chemin.
Ok.
On ralentit limite peut-être un petit peu pour s'assurer de leur donner vraiment de l'avance et peut-être pas se retrouver parce que jusqu'à maintenant ça pouvait être un peu random le fait qu'on se retrouve au même endroit qu'eux. Là maintenant ça va être vachement suspect, donc si jamais ils voient la lumière de notre voiture au loin, ils vont peut-être direct grillé, quoi. Donc on est encore plus prudent, je pense. On attend peut-être genre 15-20 minutes avant d'y aller.
Totalement, ouais. Ok, vous faites ça, et puis vous passez le pont en métal là, qui passe sur la rivière White. Et là, vous vous engagez vraiment sur la route qui mène à Eureka Spring, à travers les collines. Et effectivement, la neige commence à apparaître. Pour l'instant, il ne neige pas, mais il y a de la neige sur la route. Et donc vous arrêtez, vous installez les pneus neige, je suppose, et la couche.
On voit des marques de roues justement de la voiture qui nous a précédé.
Oui, tout à fait. Oui, il y a des marques de roues dans la neige. Ouais.
Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a beaucoup?
Non, il y a personne d'autre qui passe par ici. Vous êtes les seuls.
Donc il y a qu'une voiture récemment, il y a qu'une voiture qui est passée.
Exact. Oui, il y a absolument rien d'autre. Ouais.
Okay. On est les pneus neige, enfin les chaînes.
Attends, je...
On roule dans les traces de la voiture précédente pour... Non, blague.
est-ce que vous avez une compétence de détection? Qu'est-ce qu'on utiliserait pour... Je ne sais pas si quelqu'un a perception ou tracking.
Mais il y a la
tracking, je l'ai, ouais.
Perception, non.
Moi, j'ai observation.
J'ai tracking.
Ouais, en fait, de toute façon, perception, c'est votre score d'intelligence, quoi. C'est juste un dérivé de votre score d'intelligence. Bah, ceux qui font le score de le jet de tracking, ils l'ont à perception moins 5. Oh, okay. Et sinon, David, toi, tu fais ton jet normal, quoi, de tracking.
Ok, alors... Hop.
Perception moins 5 pour ceux qui ne l'ont pas.
Mm-hmm. Alors, ou alors naturaliste moins 5, mais je ne pense pas que vous ayez naturaliste.
Ça commence bien.
C'est loupé pour moi.
Et 1, donc ça fait un total de 6 pour 10. Donc moi, ça passe assez bien.
1 et 2, ça fait 4 pour 8, c'est bon.
Ah, ok. Bah, écoute, David, comme tu es le tracker du groupe, donc quand vous arrêtez pour remettre les pneus, et puis le personnage d'Olivier aussi regarde si les pneus, enfin les traces de roues, enfin, vous avez l'air d'observer votre environnement pour voir s'il n'y a pas d'autres passages, etc. Tu remarques sur le bord de la route des empreintes d'animaux qui ont l'air d'être qui sont assez imposantes comme ça, qui ont l'air d'être des empreintes d'oiseaux, mais ça a l'air assez grand, quoi. Étonnamment grand.
C'est des empreintes de dinosaures, quoi.
Ouais, Vélociraptor ou dino. Dino.
Là, ça serait un jet de naturalisme, mais je pense que naturaliste, vous avez personne là pour identifier l'animal.
Ah, mais on voit que c'est des pattes d'oiseaux, quoi.
Ouais, ça, je pense que vous n'avez pas besoin de réussir un jet de naturalisme pour déterminer ça.
C'est une autruche.
Ça serait...
Et quand tu dis grand, c'est grand...
Ou bien intelligence moins 6 ou biologie moins 3.
Ça fait combien de centimètres, quoi?
Ouais, en fait, intelligence moins 6, vous pourrez tous le
Allez,
faire.
Allez, intelligence moins 6, je tente.
Tentez le coup.
Et 6.
J'ai réussi.
Je crois que c'est un hippopotame. J'ai 16 pour 4.
Benoît, t'as réussi?
Oui.
T'as fait combien? T'as fait un super jet, je suppose.
Oui, j'ai fait 5 pour... C'était 13 moins 6, ça fait 7. Ouais.
Incroyable jet, ok, vous êtes en veine aujourd'hui. Là, je pensais pas que vous réussiriez, honnêtement, mais ok.
Ah, mais c'est une grosse bestiole, quoi.
Ah non, mais tu te souviens d'avoir été au zoo Nagasaki? Il y a un zoo là-bas dans ta ville et tu te souviens d'une ouais, c'était une exposition et enfin ils ont une zone avec des animaux et tu te souviens d'avoir vu en fait ces empreintes-là, enfin et les animaux en question, c'est des empreintes de manchots. Mais tu reconnais bien les empreintes de manchots, mais ils sont plus grands que les manchots habituels. Ouais.
Mmh. Est-ce qu'à la forme de la patte, je sais s'ils sont albinos ou pas, c'est ça la question?
Non, ça non.
Je ne sais pas.
Mais ouais, t'as l'impression qu'ils sont pratiquement deux fois plus grands que la normale.
Ils ont mangé des gens morts, en tout cas. Ils ont bien mangé, ils ont festoyé.
Et tu vois qu'ils sont, il y a un petit, comment dire, un petit... Ils sont en pack, hein, comme ça, il y a un petit troupeau qui marche le long et qui, enfin, ouais, tu peux facilement suivre leurs traces. Ils n'ont pas l'air de se cacher, quoi.
Bon bah, je sors mon fusil prêt. On est un peu dans la nature, quoi. Je sors mon fusil.
C'est tentant de les suivre. Hein.
Ça s'enfonce dans la forêt. Ouais.
L'avantage, c'est qu'un manchot, si tu cours, il te rattrape pas. Non mais oui, ça fait moins peur, quoi.
Bah, c'est...
Sauf s'ils glissent plus rapidement que
ça. Des manchots mutants avec, je sais pas moi, des difformités particulièrement cruelles, je sais pas. Ouais, on les suit, non, pour voir.
Allons-y, bah, allons-y. Façon, on a une piste, on la suit.
Ouais, bah David a réussi son jet de tracking, donc vous arrivez à suivre.
Oui,
le tracking. Le tracking, ouais, le pistage, c'est toi.
C'est des hippopotames, mais je sais où est-ce qu'ils vont.
Non, mais c'est logique, tu es habitué à suivre des traces, mais dans le monde de Tolkien, alors forcément, les manchots, c'était pas trop ton style, quoi. Ouais, tu suis les traces sur peut-être 1 kilomètre, et la quantité de neige augmente de plus en plus. Tout d'un coup, les traces s'arrêtent subitement, mais vraiment de manière nette, sur une colline, comme ça. Ouais, enfin, t'es complètement perturbé en tant que tracker, parce que, T'as l'impression que c'est comme s'ils étaient volatilisés dans l'air. Ah, non, ils sont pas envolés, les manchots sont pas envolés. Je veux dire,
c'est possible, hein, c'est des mutants.
Ils étaient là un instant, mais ils étaient plus là juste après, quoi. Et c'est pas possible parce que forcément les traces auraient dû continuer, mais ils sont pas revenus sur leurs pattes non plus parce que tu le verrais aller en sens inverse.
Il y a pas de traces de roues, de jeep autour.
Non, rien du tout, non.
Ou d'endroits par lesquels ils auraient pu chuter.
Et c'est pas de la nouvelle neige qui a recouvert à partir d'un moment la piste, quoi.
Et ils sont pas glissés, il n'y a pas des marques, ouais. Parce que c'est comme dans les documentaires, on voit les manchots qui glissent sur le ventre, là. Non, il n'y a pas ça.
Non, mais David a réussi son jet tracking, donc pour lui, c'est totalement bizarre, quoi. T'as l'impression que... Okay. C'est comme s'ils avaient arrêté d'exister à un moment donné.
Okay. Bon, ça semble.
Ouais, on voit quoi aux alentours?
Là, tu dois avoir une vue sur la ville en contrebas. Oui, parce que les manchots se dirigeaient plus ou moins vers la ville quand même. Mais évidemment, la ville est totalement plongée dans l'obscurité. et vous êtes plus très loin, vous pouvez y aller à pied maintenant, hein, mais
on est en donc, forêt, hein, c'est ça.
Oui, vous êtes dans les environs de la ville, la ville est entourée de forêts, ouais. Et donc la ville est entièrement plongée dans l'obscurité, mais tu peux voir les différents bâtiments. C'est vraiment une ville fantôme, c'est extrêmement lugubre. Et tu de là où vous êtes, vous pouvez apercevoir au centre-ville les phares de la Jeep qui sont allumés. Ouais.
Donc on est en forêt et on regarde un peu dans les arbres. Il y a pas de bestioles dans les arbres parce que peut-être les manchots ils sont fait choper par un truc dans l'arbre.
Non, il y a rien dans les arbres, non.
Ok.
On entend des bruits d'oiseaux, des bruits d'insectes, enfin des bruits de la nature normaux.
Oui, vous entendez des bruits de la nature normaux. Ouais.
Est-ce que ça pourrait ressembler à du, ouais, espèce de merging de réalité pas stable, mais sinon, est-ce que on va directement vers la ville ou est-ce que on veut repasser à la voiture pour la rapprocher de la ville au cas où pour une raison X ou Y on doit fuir précipitamment et qu'on n'ait pas envie de traverser retraverser la forêt au moment où
on piquera la voiture des autres sinon.
Non, moi je préfère récupérer la voiture aussi, je le sens.
Ah ouais, bon,
donc,
bah
ouais.
Banco.
Plus pratique.
Et peut-être la planquer à un endroit un petit peu mieux que sur le côté de la route.
Si la ville est déserte, on trouvera bien un bâtiment, ouais. Un garage, ou planquer la bagnole.
Ouais. Ok, bah je suis aussi assez pour faire ça.
Ok, très bien. Bah, vous retournez à la voiture. C'est qui conduit pour le moment?
Il y a un truc pour ça. Driving, ouais. J'ai 13. Vas-y, laisse, c'est bon.
Bah vas-y. Combien j'ai, mais
driving automobile TL8, ouais.
Ouais, je crois que j'ai 0 comme dans la réalité.
Ah, pourtant, en général, j'ai essayé de vous mettre parce que bon, c'est assez logique que vos personnages aient des compétences en conduite automobile, mais j'essaie d'être relativement réaliste de ce côté-là, mais bon, surtout des militaires, quoi, enfin des paramilitaires comme vous. Ouais, très bien, tu es en train de rouler. Comment tu arrives à l'entrée de la ville? Vraiment les premières maisons assez clairsemées au départ comme ça, hein. C'est pas enfin vraiment où il y a la forêt puis directement la ville. Il y a des sortes de petits bâtiments comme ça sur le côté qui commencent à apparaître, un peu des fermes et des choses comme ça. On est quand même qu'en 1947. Hein. Et t'arrives dans ouais tu es en train de remonter.
Dès qu'on est à 300 mètres de la ville, enfin j'allais dire des débuts vraiment de la ville, je propose de garer la voiture effectivement dans une ferme ou comme ça on finit à pied plus tranquillement.
Ouais, fais-moi un jet de conduite à moins 4.
3, 4, 5, 6. 6, j'ai 13 ans, donc c'est bon.
Ouais, tu réussis ton jet, ok, super. T'es un bon conducteur, dis donc. Ou alors, vous êtes vraiment en feu au niveau des jets. Hein. Chaque fois, je m'attends à ce que vous échouiez. Et puis... C'est bien, c'est bien. Bah, vos personnages sont des James Bond, après tout. Hein. C'est normal. T'es en train de conduire, et bon, il fait très très sombre, puisqu'il n'y a absolument aucune lumière. Hein. Il n'y a plus d'électricité dans la ville, donc il fait extrêmement sombre. Et maintenant, il y a vraiment que la lumière de la lune qui éclaire la route, hein. Et donc t'as les phares qui de votre Jeep qui est enfin de votre voiture qui est en train d'éclairer le bord. Et tout d'un coup, tu vois une petite fille au milieu de la route et tu essayes de l'éviter et elle saute sur le côté, elle disparaît dans un coin. T'arrives à l'éviter parce que t'as fait un super bon jeu de conduite, hein. C'était pour éviter l'accident de voiture à ce moment-là. Tu freines brutalement. Mais t'arrives à éviter de percuter une maison avec ton véhicule.
Maîtrise la glissade. Et...
Ouais, c'est ça exactement. Tu dérapes sur le sol et t'arrêtes le véhicule, quoi. Et vous avez tous eu un coup de sang comme ça. T'as failli percuter. T'as l'impression que c'était une fillette. Ce que t'as pu voir, c'est que c'était une fillette d'environ une douzaine d'années, en robe comme ça.
Dès que la voiture s'immobilise, je sors de la voiture pour me rendre dans la direction de la fillette pour voir si je la vois. Et puis, dans le pire des cas, si je la vois pas, pour voir s'il y a des traces de pas.
D'accord. Oui, oui, j'ai dit qu'elle était en robe, mais c'est pas possible. Ça, elle porterait une combinaison hivernale, enfin, je veux dire, des bottes et enfin quelque chose à... Et quelque chose de chaud, quoi, pour se protéger du froid, effectivement. Elle serait préparée aussi à l'environnement où elle se trouve. Ok, tu sautes de la voiture, tu sors de la voiture, et tu te rues dans la direction où t'as vu la petite fille disparaître. Effectivement, tu entreapercevois un bout de vêtement qui disparaît derrière un des bâtiments et t'as des empreintes dans le sol, dans la neige, pardon, qui se dirigent dans cette direction-là.
Je poursuis.
Ok. Les autres, vous faites quoi alors pendant ce temps-là?
On suit.
Ouais, je vais pas les abandonner. Moi, tant qu'elle était pas en robe blanche et d'allure pâle, ça me va, tu vois. C'était pas raté. Elle avait pas une tête de fantôme. J'ai dit, bon, bah, on y va. J'ai running. Ah ouais, on a running.
Ah oui, c'est ça, vous aviez running, ouais, c'est ça, c'est le jeu. Ouais.
Tu le vois où, hein?
Ouais, si vous l'avez pas, c'est
Dans les
par
skills.
défaut.
Dans
Hein.
les skills, ouais.
Ouais, donc si vous avez running, sinon.
4 et 3, 7 et 2, 9. Ouais.
C'est HT moins 5, quoi. Health moins 5 pour courir.
Ouais. Ok,
Moi, j'ai égalisé mon score.
je viens de faire 14 pour 5, donc je pense que ça marche pas.
J'étais poumon.
Et 3, 7 et 2, 9. 9. Ah ouais, non, moi je loupe de 1. 13 moins 5, ça fait 8. Donc,
Donc Benoît, qui n'était pas le plus chaud pour partir, est en fait celui qui court le plus vite. Benoît qui vous dépasse tous là. Sakura est en mode sprint, quoi. Ok. Ouais, donc Sakura, t'arrives au coin de l'intersection bien avant les autres. Kintaro, le personnage de David, je pense que c'est Kintaro, il est tellement fatigué qu'il est vraiment à la traîne, il est très loin derrière, il est complètement essoufflé. En
Ouais, puis
fait,
moi j'ai pas l'habitude de courir dans la neige.
courir dans la neige, c'est pas évident, hein. Sakura, toi tu vois la porte de l'arrière du bâtiment qui est en train de se refermer avec la fille qui disparaît. À ce moment-là, en fait, vous remarquez tous les trois qu'il y a des flocons de neige qui commencent à tomber autour de vous. Et il y a deux, trois flocons, et puis très rapidement, la vitesse de la neige commence à s'accélérer. Et Kintaro, tu sens une puissante énergie magique qui t'enveloppe. T'as l'impression d'être pris dans une sorte de coup de vent, comme ça, de magie. Le choc est pratiquement violent quand la vague de magie arrive sur toi, de mana, pardon. Et vous regardez autour de vous et vous voyez que effectivement, la réalité est en train de. En fait, c'est comme si vous aviez une sorte de mirage, hein. L'environnement autour de vous est en train de gondoler, comme s'il y avait une sorte de chaleur, et les choses sont en train de se transformer autour de vous. En fait, les bâtiments commencent à prendre une apparence
Cauchemardesque.
cauchemardesque, oui. En fait, comment dire, ils se transforment en pierre, ils deviennent beaucoup plus grands. Beaucoup plus massif, avec une apparence totalement étrange et bizarre à certains endroits.
On n'irait pas se planquer avec la petite fille, là, parce que peut-être qu'à l'extérieur, ça craint. Et à l'intérieur, parce que si la gamine, elle s'est planquée. C'est peut-être un réflexe de survie locale.
Moi, dans mon esprit, c'est soit c'est une survivante et on fait bien de la suivre et de se planquer avec elle, soit c'est un piège et de toute manière, il faut engager l'aventure. Donc, je dis comme Olivier.
Bon ben, allons-y, Silent Hill cross les montagnes hallucinées.
Ouais, ça me fait penser à ça, moi. Tu vois, si tu croises une petite fille, ça c'est un film d'horreur.
Au milieu de la ville maintenant, quand vous au milieu de la ville maintenant, quand vous regardez, il y a un bâtiment titanesque qui se dresse au milieu, qui n'était pas là avant, et ça a l'air d'être une tour gigantesque. Qui va vraiment comme, enfin, vous avez du mal à, en fait, le haut se perd dans les nuages, donc vous voyez pas le haut de la tour. En fait, il y a des éléments du building qui sont distordus et qui ont été altérés, mais vous voyez que il y a quand même un logo d'hôpital qui s'affiche encore à un endroit. Donc vous avez l'impression que c'est un hôpital, mais la forme de l'hôpital est devenue une tour. Et au sommet, en fait, il y a une énorme lumière verte qui est irradiée de la tour, du sommet de la tour, comme si la tour était un gigantesque phare, comme ça. Donc en gros, oui, vous avez l'impression que c'était originellement dans votre réalité, enfin dans la réalité de où vous étiez il y a 5 minutes, un hôpital, mais à l'heure actuelle, c'est un phare titanesque au milieu de la ville.
Du coup, on suit la gamine, enfin, ou alors on va directement au cœur du problème, hein, s'il suffit de suivre la lumière du phare.
L'avantage de la gamine, c'est que peut-être elle aura des choses à nous dire avant
Des
qu'on aille,
réponses, quoi.
ouais, tu vois,
Ouais,
mieux préparé.
je suis aussi plutôt pour suivre la gamine dans un premier temps.
Allez, go, alors.
Ok. Ouais, tu rentres dans le bâtiment. Vous avez l'impression d'être dans des grandes salles vides avec de la glace. Ouais, non. Ça pourrait être aussi un ancien restaurant quand même. Donc il y a quand même parfois des tables et des chaises qui sortent de la neige, mais il y a de la neige, des quantités de neige telles que il y a juste parfois une chaise ou une table qui, une sorte de diner comme ça américain qui s'est transformé.
Il y a de la neige à l'intérieur.
Ouais, parce qu'il y a partie du toit qui s'est effondré, alors il y a de la neige à l'intérieur. Ouais. Vous avez juste la lumière comme ça. Ouais, pour la trouver, qu'est-ce qu'on ferait?
Je peux déjà appeler, je crie, eh oh, gamine! Et viens!
Reviens, gamin!
Reviens, gamine!
Faites-moi, lance-moi les 3D6 à voir pour voir quelle est sa réaction initiale à votre présence.
Alors, c'est là où il faut faire beaucoup, hein, où j'ai fait 3-1 tout à l'heure. 5 et 4, 9 et de 11.
Ouais, c'est pas mal, c'est ni bien ni mauvais, quoi, c'est neutre. Ouais, et t'essayais quoi pour la convaincre?
J'essaie de l'appeler.
Oui, non, mais en termes de.
Avec une voix relativement rassurante. Et oh.
Ouais, ce serait un fast talk, je pense. Hein, là. T'essaies de la convaincre, quoi. Ça, c'est fast talk, par contre.
Fast talk, j'ai 11. 6 et 2, 8.
Ok. Ouais, donc ça améliore sa réaction. Tu entends un schlang et tu la vois, elle était en train de se sortir, elle était cachée sous une des tables. Elle a l'air d'avoir peur de vous.
Les mains en hauteur, comme ça, je lui dis tout va bien, tout va bien. On veut juste discuter un peu. Ça va? T'habites ici?
Non, non. Je suis tellement content de voir quelqu'un d'autre de vivant ici, et pas un des monstres qui habite ces lieux.
Des monstres.
Quand il se met à neiger, que les maisons deviennent bizarres, il y a des choses horribles qui habitent cet endroit.
Des choses horribles comme quoi? Tu peux nous en dire plus?
Des choses cauchemardesques. Non, moi j'habite pas ici. Je suis venu avec ma maman. On est arrivé ici il y a une semaine, mais ils ont pris ma maman, elle est prisonnière dans la tour là-bas.
Vous veniez pourquoi?
Tu vois qu'elle réfléchit, elle dit ça fait un moment que je rêve de cette ville. Il y a quelque chose qui m'attire ici. J'ai rêvé d'un magicien qui habite dans cette ville avec une longue robe jaune et qui habite dans la tour. J'avais l'impression que qu'il voulait que je vienne ici, et ma mère, elle a décidé de m'emmener pour essayer d'y voir clair.
Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à l'éloigner de la tour avec quelqu'un qui a une grande robe jaune?
Je sais pas. Je pense, oui, c'est comme une intuition. Le jaune, dans ces cas-là.
À ce moment-là, dans la conversation, vous commencez à entendre un gros craquement comme ça, comme quelque chose qui aurait, ouais, vous savez, en fait, vous savez pas, comme s'il y avait un tremblement de terre ou quelque chose comme ça, et vous entendez, non loin en direction du centre-ville, des coups de feu, des gens qui sont en train de tirer à la mitrailleuse. Apparemment, il y a un combat qui s'est engagé au centre, ouais.
Ça, c'est nos copains.
Ok, oui.
Bon, on va pas aller les aider, hein.
Alors, soit on part du principe qu'ils sont en train de faire une diversion, soit on part du principe qu'on veut se faire des amis en les aidant, vu qu'à mon avis ils sont en train de taper contre des hippopotames, ouais, ou des monchots ou une autre joyeuseté du coin.
Ça semble loin de nous.
Non, pas de problème. En courant, vous pourrez y arriver vite, oui.
Bon, bah,
c'est très sonore, en tout cas. Il y a vraiment beaucoup. Vous voyez qu'ils opposent une résistance farouche à la chose qu'ils sont en train de rencontrer. Ouais.
On a toujours nos jumelles.
Bah oui, il n'y a pas de raison.
Oui, il n'y a pas de raison que tu les aies plus. Ouais.
Non, mais moi, je dis à la gamine, reste là, cache-toi bien des monstres. Et puis, bah oui, moi, je suis quand même pour aller au moins récupérer les bières s'ils sont tous morts.
Bah, véritablement, j'essaie d'observer d'abord à la jumelle en me rapprochant un peu avant de décider si j'y vais ou pas.
Vous avez votre armement favori sur vous, hein. De toute façon, vous n'êtes pas stupide, vous l'avez pris, hein, vous l'aviez dans le coffre de la voiture, vous l'avez pris avec, hein, forcément. Ouais, écoute, tu vous déplacez alors, donc la fille retourne se cacher.
Est-ce qu'on ne la prend pas avec nous, la fille ?
Bah, si elle a l'habitude de rester en vie, entre guillemets, en se planquant là, c'est peut-être dommage de l'exposer.
Ouais, mais est-ce qu'on ne s'expose pas à ce qu'elle parte rejoindre sa mère seule dans la tour pendant qu'on a le dos tourné ?
Elle disait que quand il y avait les bâtiments bizarres et les monstres, elle ne bougeait pas. C'est ce qu'elle a commencé à dire.
Ok, bon, faire une offre, ça marche, ça me va.
Ok, donc elle retourne se cacher. Et vous déplacez dans les villes de manière assez stratégique. Oui, donc vous arrivez à une intersection, vous avez une vue sur l'affrontement. David, tu peux prendre, enfin donc Kintaro, tu prends tes jumelles. Et en fait, tu vois les soldats. Il y en a déjà un qui est mort sur le sol. Et les trois autres sont accolés, enfin dos à dos avec des fusils d'assaut comme ça, enfin des mitraillettes de l'époque. Hein. Ils sont vraiment bien équipés, tu vois qu'ils ont vraiment pas mal d'armement avec eux, hein, des grenades, etc. Mais tu vois pas la créature qui les attaque immédiatement, mais tu sens une vibration dans le sol, donc t'as l'impression que la chose se déplace sous la terre. Il y avait un peu un tremblement de terre.
Et c'est eux, ils ont l'air de regarder à droite, à gauche pour essayer de voir par où la créature va ressortir.
C'est exact, ouais.
Ambiance là, ouais. Bah, on peut au moins s'approcher et puis les aider en étant. En surprenant la créature qui s'imagine pas nous voir arriver, dès qu'elle sort, on tire, quoi.
Land Vitality ou Land Energy plutôt, il a quelle portée ?
Non, tu dois être au contact, c'est une imposition des mains.
Ok.
Mm-hmm. Ouais, moi, Takeshi, bah, il s'avance avec sa mitrailleuse, hein, rifle. Et puis, alors j'avance plus doucement, hein, avec une marche rapide. Et surtout, j'observe et j'essaie de sentir avec mes pieds les grondements pour essayer de percevoir le moment où la créature va ressortir de terre. Et puis, bah, si je peux deviner plus ou moins où m'apprêter à tirer dans cette direction.
Ok. Kintaro, toi, tu fais quoi ?
Je m'avance aussi avec mon pistolet automatique en essayant de m'abriter derrière... tout ce qui peut y avoir d'obstacles me permettant de ne pas m'exposer directement et sans tirer pour le moment. De toute façon, on n'a toujours pas vu ce contre quoi ils se battent, mais je me rapproche.
Ouais, et Sakura ?
Moi, j'ai plus envie de me poster, enfin de les laisser avancer, de me poster en retrait,
sur un toit.
En joue pour, tu vois. Pas qu'on soit tous au même endroit, parce que si on se fait attaquer à un seul endroit, on va tous se faire bouffer. Donc. Pour le bien de l'équipe, je reste en retrait.
Ok, très bien. Oui, donc Olivier, toi, tu t'avances et tu sens les vibrations. En fait, tu as l'impression que tu vois le sol qui se craquelle de la route, comme si la chose était en train de se déplacer sous la route. Et alors, donc, ça soulève en fait le macadam de la route au fur et à mesure de la progression. Et puis, tout d'un coup, la créature bondit hors de l'eau, saute, enfin hors de l'eau, non, bondit hors de la route, mais vous avez l'impression de voir une baleine en train de jaillir hors de l'eau pour retomber sur les soldats. Et évidemment, c'est un énorme amas de tentacules et de et d'yeux globuleux qui fonce dans la direction de ces soldats et qui fait une dizaine de mètres de long, quoi. Et qui saute en l'air comme ça et qui s'apprête à leur retomber dessus.
Ça fait pas Gilly. Non, enfin, c'est pas un truc comme ça, non.
De quoi ?
Ça fait pas Gilly Gilly ou je sais pas.
Ah oui, si, c'est Tekilili, c'est totalement Tekilili, oui. Et donc, les trois soldats survivants sont en train de décharger leurs armes à feu vers la créature. Il y en a un qui essaye de balancer une grenade dessus. Olivier, je ne sais pas ce que tu fais, toi.
Bah, je tire, mais sans grand espoir. Parce que si c'est ça, c'est vraiment sans grand espoir.
Ouais, et moi, du coup, je ne sais pas si je tire, parce qu'à part attirer son attention, éventuellement, je vois pas trop ce qu'on veut, ce qu'on peut accomplir.
Ah, on peut pas laisser ces pauvres gars sans essayer quelque chose.
Bah, on peut leur dire de fuir. Dispersez-vous, il y en aura peut-être un qui va...
si tu cries ça, c'est pas terrible en termes de discrétion.
Ouais, bah, c'est toujours, ça a une efficacité, à mon sens, plus grande en termes de les sauver. Et c'est pas moins discret que tirer au fusil automatique sur le Shogun.
Ok, il y en a, ouais, il y en a deux qui se font écraser par le Shogot, et ils se retrouvent à l'intérieur, et vous entendez à l'intérieur de la masse, hein, et vous entendez des bruits de craquement d'eau à l'intérieur. Et il y en a un qui arrive à courir, vous voyez qu'il est complètement en perte de santé mentale, il hurle en reculant et en lâchant tout ce qu'il a sur la créature. Ouais, donc Olivier, tu peux même pas rater ta cible vu la taille du truc. Ça fait quand même, c'est une rame de métro, quoi. Donc tu vides ton chargeur dessus aussi, tu tires tout ce que t'as, et David, tu cries à l'autre de s'éloigner. Le soldat, en fait, il recule, et puis une des tentacules du Shogot la grippe et lui arrache un bout de jambe. Et à ce moment-là, en fait, il s'arrête de neiger, et vous voyez le Shogot qui commence à s'effilocher dans l'air, comme si c'était, il se transforme en flocon de neige. Comme ça, et il disparaît devant vous, et il reste plus que le cadavre des trois soldats et celui qui vient de perdre sa jambe, et il est en train d'hurler de douleur. Sa jambe a été tranchée au genou, quoi.
Et l'hôpital est disparu aussi, j'imagine. Où il est réapparu plutôt, non?
Ah oui, le bâtiment, le phare vert a disparu, je veux dire.
Le phare vert a disparu, les bâtiments sont redevenus normaux.
Et, ouais. Et tu sens plus de... Il sent encore de la magie ou pas?
Normal, il sent l'énergie normale, ouais. En fait, c'est comme des grosses pulsations. Maintenant, David, tu te rends compte, ton impression, c'est que c'est comme si tu avais des grosses vagues de mana qui émergeaient du phare et qui irradiaient autour, hein. Et donc, ça pulse comme ça. Et quand la vague frappe, ça transforme la ville.
Ouais. Ok, je fonce vers le dernier soldat et j'essaye de le soigner, du coup, avec... pour le moment, j'essaye de le soigner avec du coup l'énergie. Ça, c'est adapté ou faut que je fasse du land vitality dans l'état dans lequel il est?
Ouais, avec l'hémorragie, il faut que tu fasses un land vitality. Ouais, c'est ça. Ouais.
Ok. Donc, du coup.
Au départ, tu dépenses des points de fatigue, hein, donc. De toute façon, la fatigue, ça se récupère super vite. Hein. 10 minutes de repos et ta fatigue est récupérée.
Ok. J'ai raté, je suis à 12 il fallait que je sois en dessous de 9.
Ouais, t'essayes de lui imposer les mains, mais malheureusement, la magie est partie. Elle est retournée vers le phare et du coup, t'arrives plus à te connecter au mana et t'échoues à lancer le sort, quoi. Le mec continue de hurler de douleur.
Je peux tenter un simple first aid.
Ouais, bien sûr, pour faire un garrot et pour arrêter l'hémorragie.
Voilà, exactement ce que j'allais dire. En même temps qu'il tente son apposition des mains. Et un 5, 5, ça fonctionne. Je dois avoir 12, ouais, c'est ça.
Ouais, j'aurais peut-être dû faire ça aussi, en fait.
La question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce que le taper du Shogot, ça paraît un peu trop compliqué. Si ça arrive par pulsation, t'es en gros, ça va revenir et les monstres vont venir quand la pulsation sera là, mais je suis pas sûr qu'on puisse les tuer.
C'est qu'avec le personnage de David, on peut les sentir arriver. Enfin, j'imagine que toi, tu peux les sentir arriver. Tu sens arriver la magie, donc on a comme un radar à phénomène.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire?
Se planquer.
Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'aventure pour...
Aller dans l'hôpital, qui est le lieu central, à mon avis.
Ouais, et puis voir s'il n'y a pas une source de tout ça, ouais. Ou quelque
voir
chose.
Voir s'il n'y a pas un truc qui... Un générateur, j'allais dire. Un point central, une personne, quelque chose.
Ouais. Bah, le mec en jaune, là, c'est peut-être celui qui est en train de...
T'as réussi le jet de premier soin?
Oui, largement, ouais.
Ah ouais, donc t'arrives à faire le garrot, arrêter l'hémorragie... Bon, il est quand même mal au point parce qu'il a quand même perdu pas mal de sang, mais il est sauvé pour l'instant, en tout cas.
Alors, quand est-ce que je pourrais retenter, moi, mon G? Je ne sais pas si...
Il te faut... en fait, tu récupères un point de fatigue par une minute de repos total où tu es assis et que tu ne fais rien, quoi. Vous pouvez vous mettre à l'abri dans un des bâtiments et t'asseoir à un endroit, reprendre ton souffle...
De toute manière, j'imagine que les premiers soins, ça prend du temps.
Il y a un autre qui va chercher la petite fille pendant qu'il se repose, pour que tout le monde reste groupé, parce que je suis pas sûr.
Et qu'on l'amène dans l'antre.
Bah ouais, mais enfin, la laisser toute seule dehors, ça me chiffonne en tant que personne. Enfin, voilà.
Tu sais, moi, ça me fait penser à Alien avec la petite fille qui arrive très bien à se débrouiller toute seule. Tu sais.
Et
On peut aussi lui dire qu'on ira la récupérer en sortant, si on y
ouais.
arrive.
Et que les scénaristes oublient complètement dans le 3.
Eh non, elle se fait bouffer. Non?
Elle est tuée off-screen, je crois.
Elle est tuée
Oui.
off-screen, ouais, dans la
Il
première
y a
scène,
le.
on les
Eric.
voit morts. Hein. X, la petite fille, et, ouais, il
Ouais.
tue les survivants. Très
Et
sympa,
Ripley,
quoi.
elle s'est fait pondre dans la bouche, un truc comme ça.
Bon, arrêtez de mobiliser mes sources d'inspiration. Les classiques ont du bon pour une raison. Hein, c'est vrai que. Ouais, donc tu.
Bon, bah on la laisse se démerder alors.
Ok, très bien. Bah écoutez, je suppose que vous. Oui, pour l'instant, la ville est redevenue normale pour l'instant. Donc, David, en fait, tu as largement le temps de récupérer et donc tu peux te retenter de lancer ton sort.
Ah,
Hein.
je vais retenter. Petite question, dans quelle mesure est-ce que je les sens arriver à l'avance, les vagues, ou je sens la magie une fois que c'est trop tard? Est-ce que je peux un petit peu anticiper les trucs de manière à ce qu'on se planque? C'est ce dont on discutait pendant que tu étais absent.
Oui, jusqu'à présent, tu as été surpris parce que tu n'étais pas familier du phénomène, mais maintenant, tu penses que tu pourrais peut-être les anticiper d'une minute ou deux, oui,
Ok.
effectivement.
Ah, ça peut nous
Tu, quand
laisser
tu sens un
tranquille.
frémissement dans le mana, tu pourrais l'anticiper. Ouais.
Ok.
Oui, aussi, en termes de théorie, effectivement, toi, enfin, vous êtes des agents d'infinité, donc vous savez qu'il existe des écharpes de réalité. Donc les écharpes de réalité, c'est quand il y a une réalité qui a explosé, par exemple, ou qui s'est désintégrée. Et alors il y a des écharpes qui sont en fond, qui ont pénétré d'autres réalités. Et en fait, c'est des zones dans une autre réalité où la réalité qui s'est, qui s'est, qui c'est l'autre réalité s'est installée, quoi. Et ça crée une région du monde où l'autre réalité toujours existe. Et donc ça crée, par exemple, des endroits, je sais pas. Un exemple classique, c'est vous êtes dans un monde où il n'y a pas de monstres, mais il y a une écharpe de réalité d'horreur gothique qui s'est plantée dans une ville allemande, par exemple. Et dans cette ville-là, dans un rayon d'une dizaine de kilomètres carrés, il peut y avoir des loups-garous et des fantômes qui existent pour de vrai. Ça va?
Ok.
Donc vous pensez que vous êtes confronté à ce genre de choses, mais effectivement, comme tu l'as dit David tout à l'heure, tu te dis que apparemment, pour une raison ou une autre, l'écharpe de réalité n'est pas stable. Il y a une autre réalité qui essaye de se manifester dans celle de base, mais elle arrive. Enfin, en tout cas, ce phénomène-là, vous n'êtes pas au courant. Normalement, il devrait pas y avoir de fluctuation entre les deux réalités, mais là, c'est vrai qu'il y a une sorte de blink entre les deux. Ouais.
Et ces écharpes de réalité, est-ce qu'elles peuvent être contrôlées par quelqu'un qui manipule suffisamment bien la magie, ou est-ce qu'elles peuvent être appelées, je ne sais pas?
Oui, on peut dire que David a déjà entendu que ça s'est arrivé que des magiciens extrêmement puissants soient capables de conjurer une réalité autour d'eux. Ah bah oui, de toute façon, on avait fait la maison dans le premier scénario qu'on a fait, la maison du la bibliothèque était une écharpe de réalité contrôlée par le magicien.
Est-ce que alors du coup j'ai refait un jet qui a bien marché hein, cette fois-ci. J'ai plus mon total en tête, mais je crois que j'étais à 6 au total ou un truc du genre. Du coup ça
Non, c'est très
passe.
bien.
Ouais.
Donc c'est toi qui choisis à quel point tu donnes de l'énergie, hein, des points de fatigue. Bon, après, si vous décidez de continuer à vous reposer, ça n'a pas beaucoup d'importance, quoi, pour l'instant.
Ouais, je lui donne de quoi, enfin suffisamment pour qu'il aille mieux en ayant un temps de repos derrière relativement raisonnable. Du coup, si jamais il va pas mal mieux suite au first aid et
Oui,
aux
bien
soins
lui en tout cas,
magiques,
oui.
ouais, on l'interroge un petit peu sur ce qu'il faisait ici,
Ils sont.
sachant qu'on vient de qui ils sont, sachant qu'on vient de l'aider, donc on devrait il devrait avoir un a priori plutôt positif sur nous, même si il doit peut-être davantage se demander nous ce qu'on fout là.
Mais t'as. Oui, donc quand il revient à lui et qu'il voit que en fait maintenant il a un moignon à la place de la coupure, quoi, t'as carrément arrêté il a plus besoin du garrot, hein. T'as carrément, bon, sa jambe n'a pas repoussé, mais t'as carrément arrêté. Enfin, elle est complètement guérie. Il regarde ça, il fait comment vous avez fait ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Enfin, il est très perturbé par ce qui vient de se passer, évidemment.
On va On va répondre à toutes vos questions, mais d'abord, on a besoin de savoir ce que vous vous faites ici et ce que vous savez pour davantage pouvoir vous aider.
Mais vous êtes une autre équipe, non? Vous êtes pas, vous êtes une autre équipe qui a été envoyée aussi.
Et vous qui vous a envoyé?
Mais vous êtes aussi des agents de Delta Green, non? Clairement, vous êtes l'équipe Delta.
Ah, on est démasqué. Ah, vous êtes fort.
Oui, il en sait trop.
Et il s'est passé un truc bizarre tout à l'heure. On était pris dans la neige et puis je me souviens plus tout bien. On se disait que peut-être que vous allez pouvoir nous rafraîchir la mémoire justement. Sans doute que notre mémoire a été altérée par ce phénomène.
Il te regarde, il fait désolé d'avoir été désagréable avec toi tout à l'heure. Je savais pas qu'on était collègues.
Pas de souci, pas de souci. Bah, il reste une bière.
Ouais, je crois qu'il en aurait besoin d'une aussi. Ouais. Il dit ah oui, on a notre contact nous a envoyé. Je sais bien que vous savez bien le mode de fonctionnement de Delta Green. Hein, les différentes équipes sont monitorées indépendamment et ne rentrent jamais en contact avec les autres. Mais ils ont dû estimer que deux équipes ne seraient pas trop pour cette mission. Ils ont dû vous donner les mêmes ordres que nous, qu'à moi. Nous sommes là pour un search and rescue. Vous devez sauver la. On nous a dit que c'était une personne très importante pour Delta Green qui était dans la ville pour le moment là. Elle a disparu dans la ville il y a une semaine à peu près.
Une femme.
Une femme, ouais. C'est tout ce qu'on a dû. Nous a dit que c'était une haut gradée dans la hiérarchie de Delta Green.
Ce serait sa mère. Ce serait...
La femme en question avait une fille ou...
On ne nous a pas donné cette information. On nous a juste dit qu'il fallait extraire la femme. On ne nous a pas parlé d'une fille.
Est-ce qu'on ne va pas revoir la petite fille et lui reposer des questions en ayant en tête que peut-être qu'elle est en train de complètement nous balader et nous raconter n'importe quoi?
Oui, parce que elle nous a dit que c'était elle qui avait été appelée par le mec en jaune et que sa mère l'avait juste trimballée jusqu'ici, quoi. Donc il y a un des deux discours qui est pas cohérent. Enfin.
Ou alors il y a deux femmes différentes dans le en même temps.
Ou alors
temps
la petite fille,
truc,
c'est
mais...
des femmes qui a changé entre guillemets.
Oui, c'est possible aussi ça. Ouais, elle serait. Elle aurait été rajeunie par la magie qu'il y a
et
ici,
et
en fait sa mère n'existe
Delta
pas.
Ouais, hein. Ou elle est importante chez Delta Green parce qu'elle est magicienne, ou parce qu'elle a des dons.
On fonce la voir si jamais elle s'est pas déjà barrée de la planque.
Ouais, effectivement, quand vous arrivez dans l'endroit, le bâtiment où vous étiez avant, elle est plus là, elle a disparu.
Alors, je savais qu'il fallait la récupérer. Il n'y a pas de trace de pas pour voir, pour essayer de la suivre.
Non, ça a été recouvert par la neige. Hein. Quand le bâtiment se transforme, la neige se recouvre abondamment les traces.
Bon, on laisse le mercenaire à un endroit planqué pour le coup, où il est capable de rentrer.
Non, mais je devrais être généreux. C'est vrai que non, mais c'est parce que c'est vrai qu'il est forcément les transformations de la ville changent forcément les traces. Mais ça serait un jet. Tu peux faire un jet de tracking, David, de difficulté -6, on va dire, pour rendre compte de la difficulté de la tâche.
Ok.
Je devrais pas te dire que t'as quand même le droit de faire un jet, quoi. Bon, vu que vous avez beaucoup de chance pour le moment.
Sur le premier jet, 6 sur le deuxième, je crois que c'est bon. 4, ouais non, ça fait 11 et tu m'as dit -6, ça va pas passer.
Ouais, non, c'est trop dur, quoi. L'altération de la ville a trop altéré les choses pour que tu puisses y suivre les traces. Vous retournez chez le soldat. En tout cas, l'agent de Delta Green, il vous dit moi, je pense que la cible, c'est ce phare gigantesque. C'est là que doit être la prisonnière, là.
On est d'accord, le phare n'apparaît que quand il y a une pulsion.
Ouais, mais en normal, c'est l'hôpital. Donc, on peut toujours déjà aller faire un tour à l'hôpital. C'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Ouais, l'hôpital, il est architecturalement similaire. C'est-à-dire qu'il y a un clocher ou un truc comme ça à l'hôpital qui peut.
Bon, c'est une sorte d'immeuble à trois étages, donc il est un peu, enfin il est plus haut que les autres bâtiments, quoi, en tout
Est-ce
cas.
que si on est tout en haut, on sera tout en haut du clocher quand, tu vois, du phare quand le phare se manifestera, c'est ça la question.
Puis le Shogun, il va peut-être pas attaquer le phare central, donc c'est peut-être
Ah,
l'endroit
peut-être
où on
qu'il
sera
protège la
le
maison, hein,
plus
je sais
safe,
pas.
quoi.
Bon, en tout cas, on y va et puis je pense que tout nous mène là-bas.
Ouais, l'agent Delta Green, il dit, moi je vais vous attendre ici.
On le met à l'endroit où c'était entre guillemets planqué la petite fille, c'est peut-être pas une mauvaise planque, à moins qu'il se sente de prendre sa Jeep et de rentrer chez lui comme ça, mais c'est
Une boîte
peut-être
auto, oui.
Ah, mais vaut mieux le laisser dehors si le Chogote revient et ça fera diversion un peu, tu vois.
Ouais, conduire le véhicule avec eux alors que tu viens de perdre une jambe, je crois que c'est un peu impossible.
Toto, ça va, hein, mais.
En 1930 et
Si, je
quelques, j'ai un petit doute sur les boîtes auto.
Ouais, je sais pas s'il y a des boîtes auto en 1947, mais
47, pardon.
ouais, je suppose que de toute façon il est trop mal en point. Il va se planquer.
Ok, bah on l'aide à se planquer. On part vers l'hôpital, je pense. En y allant, en faisant très gaffe,
Oui.
en se planquant d'une
Ah, si on
planque
peut
à
trouver
l'autre, en
une
essayant
entrée de
de.
service, oui, une entrée. On va pas prendre la voie centrale, quoi.
Si, 1925, c'est possible.
Ah!
Il peut conduire.
My bad!
Ouais, j'étais en train de vérifier, effectivement, c'est les premiers. Enfin, ouais, ça commence à se démocratiser à cette époque-là.
Ah, de toute façon.
Ouais, c'était juste par curiosité, mais.
Oui, mais de toute façon, il va pas venir avec nous, le boiteux, donc apparemment, on doit monter tout en haut, donc on le planque et on y va, quoi.
Ok, bon, vous progressez dans la neige, même s'il neige pas pour le moment, et vous arrivez effectivement à l'hôpital au centre-ville. Et donc c'est une ruine évidemment, il n'en reste pas grand-chose, et il n'y a absolument rien qui vous empêche de rentrer à l'intérieur.
Bon, on rentre?
Bah oui, on est là pour ça.
Ouais, est-ce qu'il y a, y a pas de, du coup c'est une ruine, il n'y a pas de signe de passage récent ou de choses comme ça.
Non, il n'y a pas de signe de passage récent. Ouais. Ouais, moi, j'imagine que c'est un hôpital comme ça, hein, avec trois étages. Hein.
Un charmant hôpital en pierre rouge, comment ça s'appelle ça?
Brique.
En briques rouges. Un petit peu la manière dont j'imagine l'hôpital de Silent Hill aussi.
Les grandes fenêtres, ouais.
Une grosse cour intérieure.
Voilà. Ouais, David, tu sens qu'au moment où tu ouvres les portes de l'hôpital, tu vois qu'il y a un ascenseur qui permet de monter à l'étage, mais tu sens que tu un tintillement, un fourmillement sur le bout de tes doigts, et tu sens qu'il y a une nouvelle vague qui arrive.
On se planque? Nous.
Ou alors on va vraiment au cœur de l'hôpital, parce que c'est là où. Là, on vient à peine de rentrer dans l'hôpital. Hein.
Ouais.
Ouais, et de toute façon, si le fourmillement arrive, c'est-à-dire que l'hôpital va se
Ouais.
transformer, entre guillemets,
Tour,
en
phare,
phare.
ouais. Phare,
Puis après, quand on sera dedans, on montrera les escaliers du phare. De toute façon, on verra bien ce qu'on découvre, mais.
Bon, bah, en effet, pas mieux.
Donc vous essayez d'aller où dans l'hôpital exactement?
D'aller au centre, plus ou moins, de l'hôpital, par exemple dans l'escalier, je sais pas s'il y a un escalier central.
Moi, j'avais plus pour idée de monter tout en haut, quoi. Tu vois, à l'étage le plus haut.
On prend l'escalier central et on monte le plus haut possible.
Ouais, voilà, le temps que ça arrive.
Au vu de la tronche de l'hôpital, je sais pas s'il va y avoir un escalier central. À mon avis, l'escalier central, il va apparaître avec le phare plus que.
Oui, mais on verra bien.
Ouais, bah, effectivement, vous trouvez un escalier, vous courez dans l'escalier pour monter au troisième étage, alors que vous voyez les flocons de neige qui commencent à tomber de plus en plus. Même encore une fois, il y a des parties du building qui sont effondrées, et donc il y a de la neige qui tombe à l'intérieur. Et la réalité commence à shifter autour de vous, et vous sentez soulever dans l'air, et vous avez un peu la nausée parce que une sorte d'accélération comme ça. Et quand le processus se termine, vous. Ouais, faites quand même un jet alors de health pour voir si vous n'avez pas la nausée avec l'accélération.
11 et un
Moi, j'ai
12,
loupé.
ça fait
Reste touché.
9.
Moi, j'étais bon.
Tout le monde a réussi ?
Ouais. Non, moi, j'ai loupé.
Ah. Ouais, Benoît, alors tu te sens vraiment mal avec le transfert d'une réalité à l'autre et... Ah oui, c'est vrai, c'est Saki qui a les problèmes de téléportation parachronique. Bah, c'est dommage, elle est pas là. Elle aurait automatiquement raté son jeu. Mais en tout cas, toi, le fait d'avoir shifté et d'avoir été soulevé dans l'air quand l'hôpital s'est transformé en tour, en phare, tu t'es pris de vomissements et tu m'as gerbé dans un coin. Et vous pouvez voir maintenant par la fenêtre une des fenêtres de où vous êtes. Vous n'êtes pas au sommet de l'hôpital, mais vous êtes très très haut. Vous avez l'impression d'être à des kilomètres au-dessus de la ville. Vous avez une vue sur toute la région depuis là où vous êtes.
Et on voit quelque chose de particulier, justement, enfin, qui nous surprendrait par rapport à ce qu'on s'attendait à voir. On s'attendait à voir des bâtiments un peu bizarres, mais...
Ah oui, oui, bien sûr. Maintenant, au-delà de des ruines de la ville ici, tu vois qu'en fait il y a toute une zone de glace, une zone de glace. Vous êtes sur une sorte d'île de glace comme ça. Et cette île de glace elle-même, elle est au milieu d'une énorme plaine avec des grandes crevasses comme ça. En fait, donc il y a cet îlot de glace au milieu d'une plaine qui s'éloigne à l'horizon. Ouais.
Et nous, on est dans le phare, c'est ça
pour nous? Oui, c'était en haut du phare. Vous n'étiez pas arrivé au sommet, mais vous êtes très haut dans le phare, ouais. Et vous apercevez cette plaine titanesque. Donc c'est une plaine avec des creux, comment dire, une plaine crevassée comme ça. Je sais pas comment on trouve les... Si vous voyez ce que je veux dire, quoi.
Des canyons un peu.
Ouais, des canyons, exactement. Ouais, c'est plutôt ça le mot qui existe. Ouais, c'est ça, avec des grands canyons qui
traversent. Le phare, il est en fonctionnement. Il émet de la lumière.
Une énorme lumière verdâtre qui vient du haut du phare que tu vois encore qui éclaire toute la qui est projetée tout autour de vous et toi Kintaro tu sens une énergie magique extrêmement puissante provenir du haut du phare.
Bah, on monte.
On monte, ouais.
Bah oui. On se barre, on rentre chez nous. Merci, à la semaine prochaine les enfants.
En montant les escaliers, vous gravissez. Ouais, là, vous allez perdre un des 4 points de fatigue avec l'effort de monter. Ouais.
Ah, des D4. Oh là là.
2, 1.
Ouais, donc c'est vraiment très fatigant parce que vous avez des étages et des étages et des étages à monter pour arriver au sommet. Par les fenêtres de l'immeuble, à un moment, vous entrepercevez une patte gigantesque d'une énorme araignée qui est en train de passer le long de la paroi à l'extérieur du phare et qui est en train de tisser quelque chose sur la paroi. Et c'est une araignée géante comme ça avec une peau violette. Elle a un très beau violet. Mais elle vaque à ses occupations. Elle est à l'extérieur du building, donc.
Elle veut pas manger la lumière de l'arbre, du phare. Tu
veux. Ah, c'est référence à rien. Au Seigneur des Anneaux, je pense. Oui, c'est vrai que j'y avais pas pensé à ça.
Une goliante, c'est toi? Non, bon, ça va.
Oui, vous arrivez en haut des escaliers, quoi. Il y a une porte que vous devez ouvrir et qui donne sur le couloir. Vous ouvrez le couloir.
Pied dans la porte.
Ouais, vous donnez un coup de pied dans la porte, ok. Et ça ouvre. Et alors, il y a un couloir qui s'enfonce devant vous jusqu'à une salle à l'arrière. Et la lumière verdâtre vient de là, de l'intérieur de cette salle. Mais enfin, vous arrivez à avancer sans être aveuglé. David est un peu pratiquement euphorique à cause de toute la magie qu'il reçoit. Dans le couloir se tient un être humain avec une immense longue robe jaune. Il porte une capuche et vous ne voyez pas son visage à l'intérieur. Et il bloque le passage vers la pièce derrière.
Canard, où on parle.
La lettre vous dit vous n'êtes pas les bienvenus ici, repartez d'où vous venez. Et vous pouvez voir que, en fait, la robe de jaune qu'il a se soulève et il y a des mouvements ondulants dessous de ses jambes. Et vous avez l'impression que sous sa robe, il y a des tentacules. Hein.
Ouais, on canarde. Moi, je canarde en tout cas, je rafale dans sa tête.
Scène de film, tu sais.
Bon, je pense qu'on suit.
Non,
le guerrier du groupe, le barbare du groupe.
Je pense que dire nous venons en paix à ce stade.
Avec un mec habillé en jaune qui a des...
Non, non, mais t'as raison.
Entre les jambes, je suis désolé. Fais un jeu, c'est utile.
Attends, oui, ça va être utile, oui. Ah. Par contre, c'est votre la règle d'initiative dans GURPS, c'est votre score de Dex, hein, simplement qui détermine votre initiative. Donc, c'est qui a. Oui, de toute façon, Olivia a déclaré en premier qui tirait, donc ça va être lui qui tire en premier. Et puis après, je sais pas qui est le plus en termes de Dex, qui a le plus, le moins.
Moi, j'ai 12.
Ouais, moi, donc Benoît 10, et Olivier, ouais. C'est donc David est le moins rapide du groupe, ouais. Ok, très bien. Donc Olivier, tu peux faire un jet pour tirer, ouais.
Alors.
T'es dans un couloir, hein, t'as un bonus de plus 2.
J'ai 14, je lance 3D. 3 et 3, 6 et 2, 8, donc ça passe largement.
Ok, tu peux faire les dégâts de ton arme à feu.
13 et 2, 15 et 1, 16.
Ok, ouais, les balles s'enfoncent dans son corps et. Ça fait comme des vaguelettes dans son costume comme ça. Il y a ces tentacules qui sortent et je vais essayer de t'attaquer avec.
Ça lui a fait quelque chose, il semble quand même avoir pris ou enfin
il a reculé un petit peu, ouais.
Ouais.
Est-ce qu'il rigole, il fait moudada.
Non, il y a ces tentacules qui s'activent. Il essaie d'agripper. Il y a une tentacule qui sort de sous la. J'ai réussi mon jet d'attaque qui sort de sous sa robe et qui fonce et qui agrippe Olivier et qui essaye de le faire taper contre la paroi.
Ou l'esquiver.
Ouais, t'as un jet d'esquive. Lui a réussi son attaque, mais évidemment tu peux automatiquement. Enfin, tu dois faire un. Dans GURPS, tu dois faire un jet d'esquive. Dodge.
3 et 1, 6, 6 et 4, 10. Donc je loupe.
Ok, ouais. Tu t'attrapes et tu te fais, il te fracasse contre le mur et tu te prends 2 points de vie de dégâts avec l'impact. Benoît, c'est à toi d'agir.
Alors, pareil. Je fais 12, dis donc. J'ai fait 12.
Si tu fais pile poil, ça touche. Hein, ouais, ça touche.
D'accord.
Ouais.
Donc 5.
Lui, il esquive pas, donc tu peux tirer tes dégâts direct.
4 et 4, 8 et 2, 10 et 5, 15.
Ok, ouais, tu fais des dégâts à cause des impacts, il recule de nouveau et il lâche, la tentacule lâche Olivier. En fait, ça éclaircit. En fait, David, à cause du mouvement de recul et du combat en cours, t'arrives à voir la salle derrière toi, derrière le magicien en jaune là, et tu vois que dans la salle derrière, il y a une femme qui est attachée avec une corde à un lit de malade, et puis il y a quelqu'un qui est sur un lit de malade avec un appareil respiratoire qui lui fait soulever sa respiration. La femme a l'air un peu mal en point, mais elle est semi-consciente comme ça, et donc le malade, lui, tu vois juste son thorax se soulever avec le rythme de la machine qui l'aide à respirer.
Ok.
Donc il prépare des gens pendant que nous on s'occupe de Monsieur Jaune.
Je peux faire ça éventuellement.
Ah, si on arrive à le maintenir en respect, quoi.
Après, là, j'ai l'impression que. Enfin. Est-ce que je peux aller dans l'autre pièce en tirant moi aussi sur le. Où ça semble compliqué.
Bon, en tout cas, pour réussir à faire l'opération, et si tu réussis ton jet, je te laisserai tirer, mais il faut faire un jet de dextérité pour arriver à passer, quoi.
D'accord, 13, j'ai pas 13 en dextérité. Ouais, j'ai 10, donc je n'y arrive pas.
Ok, ouais, donc t'essayes de passer, mais il y a une tentacule qui s'interpose et t'arrives pas. Malgré tout, tu peux tirer alors.
Alors, hop, je crois que ça passe, ça fait 13, mais j'ai 13, je crois, en gun rifle. Ça passe tout juste.
Ok, donc tu peux faire les dégâts.
Donc c'est... et 4, 18.
Ouais, il se prend une nouvelle rafale. Il est, comment dire, il est. Il se prend un impact, il recule et il est un peu sonné comme ça. Il pose un genou au sol. Tu vois qu'il est un peu stun pendant une seconde là, à cause de ça. Olivier, c'est à toi?
Ouais. Attends, 3 rafales dans la tronche. Le mec, il bronche à peine. Hein. 14, donc 5 dés de dégâts. 16 et 6, 22.
Ok, là, les impacts continuent et puis Il se vaporise en boule de, enfin, en flocons de neige et il disparaît dans le vent comme ça.
Est-ce que le on est encore dans le phare ou
vous êtes toujours dans le phare, oui.
D'accord.
Oui, il faut courir.
Oui, avant que la magie se dissipe, il faut qu'on se dépêche.
Effectivement, ouais. Tu sens le David, tu sens le tingling qui est le frétillement qui te dit que ça va disparaître de nouveau. Vous courez, vous faites quoi alors?
On fonce vers les personnes qui sont attachées, on libère la meuf de Dilthey Green. Il n'y a pas la petite fille, on est d'accord nulle part.
Non, elle n'est pas là, ouais.
Et le mec est sous assistance respiratoire, il ressemble à quoi? Enfin, la personne.
Oh, c'est un être humain normal, ça a l'air d'être un Américain d'une quarantaine d'années. Ouais.
Si on le débranche,
un homme.
Ça, il va mourir.
Il est branché à l'appareil respiratoire, ça c'est sûr. David, toi tu as l'impression qu'effectivement la source de l'énergie magique, c'est la personne qui est branchée à l'appareil respiratoire.
Si on le débranche, ça veut dire que le phénomène ne se manifestera plus, peut-être.
C'est ton intuition aussi, David, ouais, en tant que magicien.
On le débranche.
Il a pas un portefeuille sur lui avec sa carte d'identité, par hasard.
Ça, non.
Il est pas en état de parler, de communiquer. Il est dans le.
Il a l'air d'être dans le coma pour l'instant.
Et est-ce que la meuf est, on peut la réveiller rapidement pour lui demander ce qu'elle, si elle a des, ce sera trop tard, l'effet va disparaître.
En tout cas, tu peux regarder la fille.
Ouais.
Et quand tu la regardes, tu reconnais que c'est à Cassia Lexington. Vous l'avez jamais vue, hein, mais la fois dernière, vous étiez allé dans sa maison. Donc, à mon avis, dans vos briefings, tu as dû au moins avoir une photo de à quoi elle ressemble. Mmh. Femme d'une quarantaine d'années.
Elles sont attachées.
Elle est attachée au lit, ouais, par des cordes.
Au lit, et le mec du lit, il n'est pas attaché.
Non, il a juste l'air d'être dans le coma. Ouais.
Bon, moi, avec ma hache, je détruis la machine.
Olivier a décidé d'être le bourrin du groupe.
Ouais. Ouais, non, mais si c'est lui la source de la magie qui...
Tu montes sur le lit et dans le crâne, clac.
Si c'est ça pour ne plus avoir de Shoggoth qui apparaissent en ville, ça me va comme deal.
Tu frappes et alors la machine, effectivement, le sol se met à trembler comme un énorme tremblement de terre et la réalité redevient normale et vous êtes juste dans une des chambres de l'hôpital et Acacia Lexington est toujours attachée au lit... Mais vous avez ramené la réalité. L'appareil respiratoire est détruit, mais tu vois la personne qui était dans le lit prendre une profonde respiration sans l'appareil respiratoire et ouvrir les yeux comme si elle sortait du coma. Ouais.
Ok, bon bah ça.
Elle a une énorme barbe évidemment, touffue parce que elle a été dans le coma dans cette réalité pendant très longtemps. Ouais.
Et du coup, on peut engager la discussion, savoir qui c'est.
Ouais, non, ça, il est probablement pas en état. Il vient juste de sortir du coma. Interrogateur musclé.
Réponds.
Faudra qu'elle.
Non, mais c'est le même type de coma que les comas dans James Bond. Enfin, la personne s'évanouit après qu'on lui ait foutu un petit coup sur la tête et puis il se réveille quelques heures plus tard ou quelques mois plus tard, frais et dispo, prêt à aller. C'est comme ça que marchent les traumas crâniens, je crois.
Il n'y a jamais de séquelles ni rien.
Ouais.
De toute façon, vous avez réussi cette mission, donc vous pourrez. Je vais vous faire votre débriefing, mais vous pourrez interroger Cassia Lexington et déterminer ce qui s'est passé. Vous pourrez aussi retrouver la petite fille. Donc la petite fille, en fait, elle s'appelle Alice. C'est sa fille à elle. Hein. Et la personne dans le lit, c'est son mari qui s'appelle Morris Bryce. Et donc c'était Alice Morehouse. Je lui avais jamais demandé son nom, ça c'était fort quand même. Comment ça s'appelait ?
Elle s'appelait la petite fille, non ?
Elle s'appelait la petite fille. Je me demandais à un moment pour-t-il demander comment elle s'appelle, mais est-ce que ça vous aurait donné un...
Bon, on fait pas dans la subtilité. Hein.
Un gros indice sur le scénario, mais voilà. Et donc, ce qui s'était passé, c'était que dans un scénario très lointain, Morris Bryce était venu à Eureka Springs, c'est un scénario que j'ai fait il y a 5-6 ans, hein, et il avait découvert que les sources thermales, permettaient d'accéder aux contrées des rêves. Et dans ce scénario-là, il était mort, et donc il était resté coincé dans les contrées des rêves. Donc en fait, son corps était en coma, comme ça. Et du coup, comme c'était quand même un puissant magicien, Morose Bryce a commencé à générer les tempêtes de magie autour de lui dans son coma.
Je me
Et
souviens de
ça te rappelle quelque chose maintenant?
ouais.
Et donc, Alice étant sa fille directe et ayant hérité un peu de ses dons magiques, elle arrêtait pas de rêver de cet endroit. Et donc, elle a demandé à sa maman pour venir, hein, pour retrouver le magicien. En fait, le magicien, c'était juste son mécanisme de défense. Hein, c'était une manifestation de lui-même, hein, qui protégeait son corps dans le coma. Hein. Donc, le magicien n'était pas méchant avec la fille. Bon, évidemment, la fille était quand même en danger, puisque forcément, vous avez compris qu'il manifestait les contrées des rêves dans cette réalité, quoi. Il y avait une sorte de fusion entre les contrées des rêves et la réalité qui se faisait. Et elle est venue, mais évidemment, ça c'est, enfin, la maman, à la cassée, elle s'attendait, elle savait pas trop à quoi s'attendre, et donc elle s'est fait capturer par le magicien jaune. Mais elle avait un backup plan, elle avait un plan de sauvegage, c'est-à-dire que si jamais elle disparaissait, Delta Green devait envoyer une équipe la secourir une semaine après sa disparition, et donc ça c'était l'équipe de secours, quoi.
Bravo, l'équipe de secours.
Ça a été vous finalement l'équipe de secours. Et donc vous avez sauvé Acacia Lexiston et Morose Bryce. Bon, il est quand même un peu. Il faudra peut-être un an ou deux pour redevenir parfaitement normal après avoir été dans le coma dans 10 ans. Sa fille a 12 ans. Il était dans le coma dans 12 ans dans les contrées des rêves. Donc faut lui laisser un peu le temps pour qu'il revienne à lui. Mais voilà. Voilà le scénario pour aujourd'hui. J'espère que c'était fun. Un peu de retour des montagnes hallucinées.
Ouais.
Par contre, c'est vrai qu'il y avait des sources d'inspiration à la Silent Hill, mais j'ai pas fait exprès. C'était une idée de scénario que j'avais depuis très longtemps. Et cette semaine, ils ont sorti plein de trailers pour les nouveaux Silent Hill. Je me suis dit, merde, ça va vous remettre dans le bain Silent Hill alors que c'est une idée de scénario. Tant pis, je l'ai fait quand même.
Non, c'était cool, enfin, de toute façon. Enfin, même. Enfin, le...
De toute enfin, façon.
Un peu classique, ouais. Je pense, le côté. Double réalité de Silent
Ouais, ça colle. En plus, ça, oui, c'est une idée que j'avais longtemps pour GURPS parce que ça colle super bien avec les théories des mondes parallèles de GURPS. Donc voilà. Allez, bah, merci d'avoir joué avec moi. À la prochaine, Olivier.
Bah, à la prochaine et merci, Jean-Michel.
Ciao, ciao, Benoît.
Salut, à la prochaine.
Au revoir, David.
Ciao, ciao, Jean-Michel. Encore merci.
Ouais, au revoir, les auditeurs. À la prochaine partie.